Lisa Lagué, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour nous parler de Jinko, Petites histoires pour la nature, qui est une exposition actuellement accueillie à la médiathèque de la ville de Tournefeuille, en Haute-Garonne, et ce, jusqu'au 27 mars 2010. Alors, vous êtes l'un des 7 membres initiateurs de cette exposition collective, de 27 auteurs, qui ont choisi d'évoquer, par le dessin, différents problèmes environnementaux contemporains. Autour de l'origine du projet d'abord, comment vous est venue l'idée de ce projet ?
Tout d'abord, je vais peut-être présenter rapidement l'association Café Creed, qui a abrité en son sein le projet Jinko. Donc l'association Café Creed est une association d'auteurs qui est implantée à Angoulême, dont la vocation est d'assurer la promotion de jeunes auteurs de bande dessinée, sortant de l'école pour la plupart, en diffusant leur travail à travers des revues collectives de bande dessinée. Depuis 2002, il y a eu 7 Choco Creed, donc qui sont les revues de l'association Café Creed, et un Jinko. Donc Jinko, ça a été un projet, une édition en fait, qui dénote un petit peu de l'ensemble des publications de Café Creed, par sa double nature, qui est d'être une exposition et en même temps un catalogue. La vocation principale de Café Creed, c'est vraiment la promotion des jeunes auteurs de bande dessinée, qui pour la plupart sont passés par les Beaux-Arts. Il y a une section BD en fait dans les Beaux-Arts d'Angoulême, en fait en faisant connaître leur travail auprès des professionnels de l'édition et de la presse jeunesse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin 2006, le président, Tristan, nous a proposé de créer une exposition de bandes dessinées, parce que chaque année, l'association Café Creed exposait, à l'occasion de la sortie de la revue Choco Creed, les planches originales, des produits dérivés, pendant le festival de bandes dessinées d'Angoulême. Et voilà, donc fin 2006, il nous a proposé de s'en lancer sur un nouveau projet, mais d'exposition à louer. Donc c'est comme ça que, au fil des réunions, on s'est mis d'accord, on a trouvé un thème. La nature du projet a été influencée par les exigences en fait du programme européen jeunesse, qui a été notre principal financeur. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord sur le thème de la protection de l'environnement, mais c'était un des thèmes, c'est vrai, enfin, qui était un petit peu au choix au niveau des exigences de financement du programme européen jeunesse de l'Union européenne. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles l'exposition est muette. Mais au niveau vraiment de la nature du projet Jinko, au départ, c'est une exposition de bandes dessinées d'illustrations qui sont destinées à sensibiliser le jeune public européen à la protection de la nature, accompagnée d'un catalogue d'exposition, donc l'ouvrage, la revue Jinko. En parallèle, on a aussi mis en place des ateliers d'initiation à la bande dessinée.
Maintenant, pourriez-vous nous décrire l'objectif de l'exposition ?
Alors, l'exposition Jinko est une exposition itinérante d'illustrations et de bandes dessinées destinées à sensibiliser le jeune public européen, donc c'est pour ça que celles-ci sont muettes, aux problématiques environnementales. L'exposition s'accompagne d'un catalogue qui rassemble en fait toutes les images de Jinko, et on a également conçu des ateliers d'initiation à la bande dessinée, enfin pour initier de façon ludique et créative les enfants à ce médium.
Mais alors, en fait, là je vous entends à nouveau... Donc, prononcer le titre de l'exposition, Jinko. Pourquoi Jinko ? Que veut dire Jinko ?
On a choisi ce titre-là parce que le Jinko biloba est un arbre qui est symbole de longévité en Asie. Et c'est le seul arbre qui a résisté à Hiroshima. Donc pour nous, c'était un symbole positif et on voulait vraiment intituler l'expo ainsi. On avait éventuellement, peut-être, parlé de faire un biloba pour une suite possible. Mais à ce jour, c'est pas... rien n'est défini. Oui.
On va peut-être s'intéresser maintenant à la conception. Alors d'abord, le choix des contenus. Comment s'est effectué le choix des contenus, des différents thèmes? Est-ce qu'il y a eu des règles de décision et de hiérarchisation sur les thèmes notamment?
Enfin, tout d'abord, je tiens à préciser qu'on n'est pas des spécialistes des questions environnementales, on est vraiment une association d'auteurs de bandes dessinées avant tout. On a choisi ce thème-là parce qu'on était tous sensibilisés à l'écologie d'une façon ou d'une autre, mais voilà, c'était vraiment d'un point de vue personnel, on avait envie d'aborder ces sujets-là, donc... à l'origine du projet en 2006. Enfin, au niveau de la conception du projet, on a commencé par lancer un appel à projet aux auteurs. On a fait beaucoup de recherches en fait en amont, on s'est documenté et on a fourni à nos auteurs un panel de thèmes assez divers, des grandes questions qu'ils pouvaient traiter en bande dessinée, donc des grands problèmes écologiques quoi. Finalement, on les a classés par thème et puis on leur a fourni avec un petit résumé, une webographie et une bibliographie afin qu'ils se documentent et qu'ils creusent le sujet après l'avoir choisi. En fait, on leur a fourni vraiment une liste, pas exhaustive, mais quand même assez variée de thèmes, pour ne pas se retrouver avec les mêmes thèmes traités par les auteurs. C'était l'époque où on parlait beaucoup du réchauffement climatique et on avait peur que tout le monde parle des ours polaires. Donc on a quand même essayé de varier les sujets, tout en encourageant fortement les auteurs à se documenter et à creuser leurs sujets, parce que nous, on pouvait pas leur fournir vraiment des données scientifiques très fiables, quoi.
Donc en fait, c'est un petit peu comme ça, avec ce travail de documentation en amont, que vous avez finalement
lancé le projet, quoi.
Lancé le projet et puis quand même répondu à une certaine exigence scientifique. Maintenant, autour de la réception et au-delà. Alors par exemple, sur les structures d'accueil, j'ai vu que vous aviez circulé par exemple au festival de bande dessinée d'Aix-en-Provence. À part les festivals, quel est le type de structure, d'institution qui a demandé le plus à louer l'exposition ?
Alors, hormis les salons du livre et les festivals de bande dessinée, les structures qui sont les plus demandées sont les médiathèques, la plupart du temps. Et à l'étranger, ce sont les centres culturels français.
Donc, l'exposition a circulé à l'international ?
Elle est partie au Togo, à Mayotte, elle est partie en Espagne, dans les Flandres aussi.
D'accord. Okay. Et quel type... Alors, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vous n'avez pas eu les mêmes réactions, par exemple, des publics jeunes, face aux planches de Bédier, qui représentaient la dégradation de l'environnement, ou certains comportements qu'on peut, par exemple, trouver dans les pays du Nord, dits riches, et pas forcément, par exemple, en Mauritanie ou au Togo. Donc, est-ce que vous pouvez nous évoquer quelques retours que le public vous a fait, ou des réactions
alors,
qui vous paraissaient intéressantes ?
Quand les auteurs ont la chance d'intervenir donc en médiathèque ou à l'étranger, ce qui peut arriver pour deux de mes amis qui sont partis au Togo et en Mauritanie. Généralement, on choisit quand même les planches qu'on examine avec les enfants. Par exemple, aujourd'hui, j'interviens à Tournefeuille et je vais plus spécifiquement me pencher sur la planche d'Alexandre Cléry sur les gestes quotidiens, parce que je sais que les enfants vont être réactifs, me parler de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils font, de ce qu'ils pratiquent à la maison. Par contre, je sais qu'au Togo, non, en Mauritanie, alors il y a une planche qui dénonce en fait l'urbanisation sauvage des côtes de la Côte d'Azur. Pour résumer très rapidement, on voit une plage qui petit à petit se construit. Il y a de plus en plus d'hôtels, de maisons, d'usines. À la fin, il y a carrément une marée noire. C'est surconstruit et c'est plus possible de s'y baigner tellement c'est pollué. Et du coup, si par exemple je demande à mes petits que j'ai eu aujourd'hui quelle est l'image qu'ils préfèrent, ils vont me dire voilà, où c'est encore un petit peu sauvage, où on peut se baigner, où il n'y a pas beaucoup de gens. Par contre, en Mauritanie, eh bien c'était pas les mêmes réactions, parce que justement l'urbanisation, c'est symbole de progrès social, d'avancée sociale, de confort. Et du coup, ce que les petits, l'image qu'ils trouvaient la plus positive et la plus positive, c'était celle où le paysage était déjà très urbanisé. Enfin, on peut difficilement parler d'économie d'eau, ou peut-être en Mauritanie. On adapte en fait vraiment notre discours, puis l'analyse au niveau des choix, des supports pédagogiques. On choisit pas les mêmes choses selon où on est, quoi.
Selon les publics. Ouais, ça montre bien l'importance, enfin la prégnance des représentations culturelles des modes de vie. Autour de l'éducation au développement durable, aujourd'hui la prise de conscience croissante par la communauté internationale, par les États-nations, les collectivités régionales comme locales, pour certains de ces enjeux planétaires, et au premier rang desquels la dégradation anthropique, c'est-à-dire faite par l'homme, de l'environnement, a pour conséquence une intégration par l'école d'une démarche éducative centrée sur ces défis. J'ai envie de dire qu'on assiste à une mondialisation de l'éducation au développement durable. Je rappelle à ce propos que nous sommes en ce moment, depuis 2004 et ce jusqu'en 2014, dans la décennie des Nations Unies de l'éducation au développement durable, qui vise finalement à modifier la démarche éducative de façon à y intégrer les principes, les valeurs et les pratiques du développement durable. Le respect des autres, le respect de l'environnement, de la nature et de ce qu'elle nous apporte, les ressources. À votre avis, quelle place la BD peut avoir dans cette éducation au développement durable ? Et est-ce que, d'après vous, ça peut être un secteur économique émergent pour la profession ?
Pour nous, avant tout, la BD est un médium d'expression artistique, au même titre que le cinéma ou que le théâtre. C'est vraiment une discipline artistique à part entière. Après, on est conscient que, notamment à travers le projet Jinko, que ça peut être un très très bon outil pédagogique et didactique pour véhiculer des messages et pour défendre des causes comme la protection de l'environnement. Donc par rapport à ça, on est très très content déjà d'avoir pu contribuer avec nos armes, à notre manière, pour faire avancer un petit peu les choses et de pouvoir sensibiliser les enfants à ces problématiques-là. Au niveau de la profession, je pense pas que ça puisse vraiment créer un nouveau secteur, mais je pense que les répercussions qu'il peut y avoir au niveau, par exemple, des commandes qu'on a quand on est illustrateur, voilà, j'imagine qu'on aura peut-être de plus en plus de livres à illustrer qui traitent de ces problématiques-là.
Oui, vous parliez tout à l'heure, en dehors du micro, d'une promesse, en tout cas, d'une diversification des contenus dans le domaine de l'illustration.
Oui, de l'illustration, oui, voilà. Et on peut que, enfin, je pense qu'on est tous très contents que les choses évoluent dans ce sens-là.
D'accord.
Si on peut défendre des causes qui nous tiennent à cœur tout en faisant ce qu'on aime, voilà. En faisant de bonnes BD, c'était quand même le souci principal des auteurs. Je pense que voilà, on joue sur les deux tableaux et puis c'est satisfaisant.
Bah écoutez, Elisa Lagué, on arrive au terme de cet entretien. Et donc au nom de l'équipe du Germe, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je souhaite une très bonne continuation au projet Jinko.
Merci.
Et je souhaite aussi remercier la médiathèque de Tournefeuille, en particulier Marie Capgras, co-responsable de la section jeunesse, qui a permis de nous mettre en relation. Merci beaucoup.